Tu sais, pour revenir sur la gestion des ressources humaines, très largement parlant, ça va être à réinventer. Ça va être à réinventer. On a engagé des employés, nous, cette année. Il y en a une, Ariel. Je crois qu'elle a travaillé 4 mois dans l'entreprise avant que je la voie.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 57e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. On a la chance aujourd'hui de recevoir un entrepreneur qui a été très en vue au Québec lors des dernières années. Nicolas Duvernois, président et fondateur des spiritueux Pure Vodka et Romeo's Engine, est avec nous aujourd'hui afin de nous faire découvrir son nouveau livre intitulé « Comment réussir son télétravail ». En plus d'avoir lancé une nouvelle entreprise pendant la pandémie se nommant « Main Forte », le célèbre dragon a été capable de trouver le temps, en l'espace de quelques semaines seulement, de lancer un nouveau livre avec près d'une dizaine de collaborateurs impliqués. Vous retrouverez d'ailleurs dans la discussion la vision de Nicolas sur le futur du travail à distance après la COVID-19, les échecs qu'il a vécu lors de sa première expérience en télétravail et également les changements personnels qu'il a fait sur sa routine afin d'améliorer sa qualité de vie. Sans plus attendre, ma discussion avec Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, en plus d'être un dragon reconnu, tu es président et fondateur de l'entreprise Duvernois, l'entreprise mère des alcools Pure Vodka et Romeo's Engine. En plein milieu de la pandémie du COVID-19, tu as décidé avec ton équipe de lancer l'entreprise Main Forte qui vend du gel désinfectant pour les mains. En plus d'une nouvelle entreprise, tu as lancé ton dernier livre Télétravail dans les dernières semaines, un livre dont tu vas venir nous présenter aujourd'hui. Nicolas Duvernois, merci énormément d'être avec nous sur Hypercroissance.
Ben, merci pour l'invitation.
Nicolas, les 8 derniers mois ont été assez spectaculaires pour tous et chacun. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'intro, tu as, toi, de ton côté, été encore plus productif que tout le monde. Tu as lancé une nouvelle entreprise, tu as écrit un nouveau livre avec plusieurs experts que tu fais en quelques semaines seulement. Première question que je te pose, avec tout ce travail-là, as-tu été capable de te reposer un peu?
Aucunement. C'est un seul mot qui définit mon année, aucunement. Non, ça a été une année assez folle. On a lancé des produits à l'interne, 3 ou 4 produits. On a lancé une nouvelle catégorie, une nouvelle division sanitaire avec du gel, de la mousse, du liquide désinfectant, des lingettes nettoyantes. Et oui, j'avais un peu de temps, donc j'ai décidé d'écrire un livre en 3 semaines. Bien sûr, entouré de collaborateurs, mais télétravail m'a marqué. Il fallait que j'écrive un livre là-dessus.
Puis la genèse est excessivement fascinante. J'ai eu la chance de lire le livre, donc de ce que je comprends, puis je pense que tu vas pouvoir peut-être nous donner encore plus de détails croustillants aujourd'hui. Tu sortais de l'émission avec deux filles le matin, l'émission à TVA, et dans le parking, c'est là que ça t'a frappé. Il faut que tu partages tes apprentissages sur le télétravail parce que si je me trompe pas, je crois que ta première expérience en télétravail avait été un petit peu plus compliquée que la dernière, là.
Ouais, ça a été assez chaotique, disons mon transfert de vie entre le bureau et la maison. J'ai échoué totalement, j'ai pas réussi à me mettre une routine, j'ai pas réussi à m'adapter à cette nouvelle réalité de travail. Et puis comme tout échec que je vis, j'essaie de le comprendre. Et puis c'est en fouillant, c'est en écrivant un peu sur le sujet dans mes chroniques les affaires que j'ai été invité à l'émission de Fille le matin pour parler de mon expérience en télétravail. Il y avait plusieurs experts autour de la table et c'est vraiment pendant que tout le monde parlait que j'ai réalisé que finalement, il n'y avait pas vraiment une manière de télétravailler. Il y avait plusieurs manières de télétravailler, mais il y avait beaucoup de questions et très peu de réponses. Et donc, c'est comme ça qu'est né le livre. Quand je suis sorti du tournage, j'étais dans mon auto, dans le parking en arrière de TVA, puis je me suis dit, faut que j'écrive un livre sur le télétravail. Et je me suis entouré d'experts qui ont pu analyser mon échec et puis finalement en faire profiter les autres.
Puis parlons-en de ça, parce que ce livre-là a été écrit d'une manière distincte là, pour bien situer l'audience de Hypercroissance aujourd'hui. Le livre qu'on parle aujourd'hui, donc « Réussir son télétravail », qui d'ailleurs est en magasin, si vous voulez aller l'acheter. Je l'ai lu, excellent livre. Livre facile à digérer, 100 pages. Chaque chapitre est fait par un expert ou quelqu'un qui a vécu une expérience en soi. Parle-nous un petit peu, là, la coordination, avoir autant de gens, bon, j'imagine que tu as quand même un bon réseau, mais avoir autant de gens qui se prêtent au jeu en même temps. On a écrit ce livre-là en quelques semaines, là. Parle-nous de cette logistique-là.
C'est ça, avec la pression, c'est surtout ça qui m'a impressionné, c'est que tout le monde a dit oui, malgré le fait qu'il fallait l'écrire en 3 semaines. Écrire un chapitre de livre en 3 semaines sur un sujet quand même important, et puis c'est peut-être des spécialistes, par où tu commences, là, tu sais. Et donc, effectivement, ben, j'ai cultivé mon réseau depuis une dizaine d'années, et donc, j'ai tout de suite mis, un peu comme un lancement de produit, tu sais, j'ai fait un plan de match pour le livre. J'ai fait un document qui me montrait un peu la totalité, entre guillemets, de ce que je voulais couvrir. Et c'était 9 sujets bien précis qui, selon moi, couvraient toutes les sphères du télétravail, autant personnel que professionnel. Puis je voulais aussi surtout écrire un livre pour des employés, mais pour des travailleurs autonomes, pour des propriétaires de PME, qui donc couvraient aussi les 2 réalités. Et finalement, un livre que j'appelle un livre humain, donc pas un livre de spécialiste pour spécialiste, mais un livre de monsieur et madame tout le monde, comme moi, qui veut comprendre un sujet complexe et qui veut surtout comprendre et avoir le point de vue, les conseils et astuces d'experts qualifiés en la matière.
Et parlons-en des conseils d'experts. Donc moi, un des premiers points très pertinents plutôt que j'ai aimé dans ton livre, c'est l'importance que tu mets à l'activité physique. Donc dans le 2e chapitre du livre, on retrouve beaucoup d'extraits parlant de l'importance de continuer à s'exercer chez soi, également l'importance de la posture à avoir quand on fait du télétravail. Puis là, j'ai poussé mes recherches un petit peu plus loin. J'ai pu m'apercevoir que toi, de ton côté, je pense que tu as repris l'activité physique, repris des nouvelles initiatives là-dessus. Peux-tu nous dire aujourd'hui l'impact que de reprendre l'activité physique, de recommencer vraiment à bouger à 100%, ça l'a pu avoir sur ta productivité en travaillant de chez soi?
Ben moi, ça a rechangé ma vie. Je dis rechangé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait sport-études pendant mes études, donc j'ai toujours été un athlète de très haut niveau même. Et quand on se lance en affaires, on vit des moments plus ou moins complexes, hein. Et à un moment donné, ben tu coupes à droite, à gauche, et j'ai arrêté le sport. Par la suite, je suis devenu papa une fois, 2 fois, 3 fois, puis la vie est folle, l'entreprise, les voyages, le ci, le ça. Le 24 heures que on a tous devient presque 2 heures là quand t'as plein de projets. Et malheureusement, j'ai mis ça de côté, ce que j'aurais jamais dû faire. Et en écrivant le livre, j'ai réalisé à quel point le fait de ne pas avoir été à mon meilleur ou en forme physique et mentale en mars, en avril, en mai, a aggravé mon échec. Et donc, je me suis dit, bon, ben là, je recommence l'entraînement. Puis, il y avait plein de signes de la vie qu'il fallait que je le fasse. Je venais de devenir papa d'un 3e enfant. J'ai eu 40 ans en octobre. Je me suis dit, l'entreprise est en folle croissance. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, et je me suis lancé un défi public. Pourquoi? Parce que quand c'est devant l'œil du public, ben tu te mets de la pression pour le faire, pour le réussir. Et j'avais besoin aussi de la motivation du monde qui me suive. Et donc, j'ai contacté une de mes bonnes amies qui est aussi une experte dans le livre, Daniel Dano, qui est l'entrepreneur derrière Cardio Plein Air. Et j'ai dit, je veux faire un défi, 40 entraînements pour mon 40 ans. Pour repartir la machine, aujourd'hui, je m'entraîne. Là, je m'entraîne dans mon bureau. Ça va être le 37e entraînement. Et juste en 37 entraînements, 2 mois et demi, c'est le jour et la nuit. Là, c'est le jour et la nuit.
De comment tu te sens, c'est ça, hein?
Ah ouais, c'est fou. Je dors mieux, je suis plus concentré, je me sens mieux. J'ai vraiment un regain d'énergie. Je le faisais pas pour ça, parce que bon, j'ai jamais eu un problème, mais j'ai perdu du poids. Je comprends pas que j'ai arrêté. Je comprends pas que j'ai arrêté.
Puis c'est intéressant parce que dans le livre, on fait mention, des fois, on parle d'activité physique, faire les grosses courses, les gros CrossFit. Mais pas du tout, là. Tu sais, commençons une étape à la fois. On le voit, là, l'expert dans le livre parle de juste aller faire des tours de son bloc le matin, puis nous aider à mieux commencer la journée. Les étirements également. Donc, plusieurs conseils simples en pratique qui peuvent avoir une énorme différence là si on regarde ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois.
Exactement. Puis j'adore la manière que je m'entraîne aujourd'hui. J'ai 40 ans parce que je m'entraîne plus avec un objectif de, tu vas rire, tu sais, d'avoir un six-pack ou d'avoir quoi que ce soit. Je m'entraîne, puis vous allez rire, mais pour être un meilleur entrepreneur, un meilleur papa, un meilleur être humain. Puis ça passe beaucoup plus par un entraînement qui défoule, qui fait du bien, mais par de l'étirement, par de la marche, juste essayer de baisser cette fameuse pression-là. Donc, je m'entraîne physiquement, mais pour ma santé mentale.
Ah, effectivement. Lors du 49e épisode des Hypercroissances, j'avais reçu Vincent Fortin, qui est président de République. Et dans le livre, il fait une bonne partie du chapitre 7 sur l'impact un petit peu qu'il raconte sur avoir un chalet à Mont-Tremblant, où est-ce que je pense que c'est 3 employés à peu près qui pouvaient y aller pendant quelques semaines. Après, il y allait exactement à la fois. Après, il ramenait 3 autres employés. Donc, on voit là, Vincent, il a fait une super bonne job avec sa culture organisationnelle. La question que je te pose maintenant, toi, Nicolas, ça a été quoi les plus gros défis que tu as rencontrés avec tes diverses organisations au niveau de ta culture organisationnelle? On s'entend, on peut plus faire les mêmes activités d'équipe. On n'a pas les mêmes manières de faire des ralliements. Comment tu as été capable de contrer ces défis-là pour garder une culture forte à l'intérieur de tes diverses organisations?
Ça a été très difficile. Juste pour revenir sur Vincent, qui est un des deux actionnaires, associés chez l'Agence République. Pourquoi il est dans le livre? C'est parce que j'ai approché Vincent, parce que j'ai aimé leur approche et je voulais 2 études de cas dans le livre qui montrait aussi qu'est-ce qu'ils font les autres. Et donc, moi, de mon côté, ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai pas été outillé à travers mon parcours. Déjà que je suis un entrepreneur qui a pas nécessairement été un auto-entrepreneur, entre guillemets. Je me suis lancé dans une industrie que je connaissais pas. J'avais aucune idée de quel outil j'avais besoin de comment gérer cette nouvelle réalité-là. Et donc, ça a été compliqué, ça a pris du temps avant que je puisse trouver un peu ma niche puis ma place dans c'est quoi mon rôle d'un patron en télétravail? Et je te dirais que, par exemple, ce qui a aidé, ce qui a motivé mon équipe tout au long de ma réflexion, c'était par l'exemple. J'essayais, je faisais pas tout parfait, mais j'essayais et je travaillais fort. On a lancé une nouvelle aventure dans le sanitaire qui nécessitait énormément de temps, mais qui avait beaucoup de retombées positives sur le mental, sur le moral, parce qu'on aidait concrètement dans cette lutte. Et parallèlement, mes collègues voyaient que en gardant le fort de du Vernois, les spiritueux, c'était la bonne chose à faire. Donc, franchement, je crois que c'était plus par les actions que par les mots qu'on a gardé cette motivation-là. Et là, l'année finie, c'est de plus en plus difficile, moins de luminosité, le froid qui arrive, deuxième vague qui est pas évidente, les nouvelles d'un quasi-confinement pour le temps des fêtes, bien compliqué le tout. Je te dirais que la grande majorité du temps qu'on va devoir investir au début des 3 ou 4 premiers mois de l'année prochaine, c'est de rebâtir cette joie de vivre corporative qui est très difficile à garder à travers un écran.
Effectivement. Au niveau des communications, est-ce que tu es resté très, très en contact avec ton équipe, disons, sur une base régulière, hebdomadaire, quotidienne peut-être même? Est-ce que ça a été un point important pour toi pour garder les équipes motivées?
Oui, c'est sûr qu'il y a des personnes, tout dépendant des postes, là, que je parle tous les jours. Mais je parle au moins toutes les semaines à tout le monde. On a une réunion tous les lundis matin à 9h où c'est tout le monde. Et c'était rare avant au bureau quand tout le monde voyageait à droite à gauche qu'on était tous là. Mais là, les lundis, on est tous là. C'est des petits écrans de 2x2 là, mais on est tous là sur l'écran. Et je te dirais que moi je fais un hybride entre le bureau et la maison. Donc là, je suis au bureau. Et il y a comme un tournant qui se fait, si c'est le bon terme. Il y a des personnes qui viennent, qui partent, tout ça. Donc, on a quand même aussi cette option de se voir. On a limité le nombre de personnes qui peuvent venir tel jour, tout ça, là, mais on a quand même cette option-là. Tu sais, pour revenir sur la gestion des ressources humaines, très largement parlant, ça va être à réinventer. On a engagé des employés, nous, cette année. Il y en a une, Ariel. Je crois qu'elle a travaillé 4 mois dans l'entreprise avant que je la voie. Mais je la voyais en écran, mais que je la vois en vrai, c'est quand même hallucinant. Jamais j'aurais cru engager quelqu'un sur Zoom là.
Ah, effectivement que ça, c'est très spécial. Tu sais, tu regardes un peu, hein. Est-ce que cette personne est grande ou pas? Tu sais, tu les vois tout le temps assis, tu sais pas nécessairement.
Mais tout le monde qui vient ici, qui sont nouveaux, moi je fais 6'5", ok. Et tout le monde qui vient ici, les nouveaux employés, c'est comme, on est grand. Les 4 là qu'on a engagés au cours de la semaine. C'est vrai, tu sais. Ça aussi, c'est drôle, c'est un détail, mais on le voit pas.
On le voit pas. Puis là, finalement, on fait comment?
Okay. Devant, tu sais, des petites lignes, là, tu sais, de hauteur, là, tu sais, comme dans les dépanneurs.
Ah, effectivement. Je voudrais parler un petit peu avec toi, main forte. T'as lancé ça au tout début de la crise. Je pense que ça a pris comme quelques semaines après que le confinement a été annoncé. T'as pris l'initiative. Puis tu sais, t'as vu également l'opportunité. T'as eu certaines activités des organisations qui ont été affectées. Je pense d'ailleurs au niveau de la restauration. T'avais dit dans un entretien avec Serge Beauchemin, je pense que c'est 15% de ton 15% de ton chiffre d'affaires en moyenne venait de la restauration. Donc, du jour au lendemain, les restaurants sont fermés. On s'entend. C'est très complexe. Tu fais des alcools pur vodka, donc tu es déjà capable peut-être de transformer dans une autre industrie comme les gels désinfectants. Parle-nous un petit peu de cette genèse-là. Là. À quelle vitesse c'est allé? Où t'es venu l'idée? Comment que tu as mis ça?
Ça a été extrêmement vite. C'est le 12 mars, le début du confinement, ou c'était peut-être un peu plus tard, mais le 12 mars, nous, on a décidé de faire du télétravail. C'est un vendredi, je crois, au bureau. Et c'est le 18 mars que j'ai eu l'idée. Et on a commencé à livrer notre première livraison le 28 mars. Donc, ça a pris 6 jours pour l'idée, 10 jours. Et j'aurais pu avoir eu l'idée le 18 et commencer à livrer le 25, sauf qu'on a eu 3 jours où on attendait notre permis. On a été d'une rapidité exceptionnelle. Et je dis « on » parce qu'on a vraiment fait ça en équipe. Et c'était un mot d'attaque, mais défensive au départ. On s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, nous, on a les capacités, on peut faire ça. Quelques jours après avoir eu l'idée, le gouvernement demande aux entrepreneurs de lever la main, ceux qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent aider. Donc, nous, on s'est dit, ben, on est là, nous, on est prêts, dites-nous quoi faire, tu sais, en guillemets, là. Et on a été inondés de demandes par nos partenaires, c'était les services essentiels au tout départ. Ça nous a vraiment, ça a bouleversé le quotidien de l'entreprise et mon quotidien, crois-moi. J'ai dû travailler avec mon chef de finance opération, Pierre-Alexandre, un bon 4 mois, comme 10 heures par jour sur ce projet-là, parce que c'est tellement fou. Tout était en urgence, tout était important, tout était complexe, des retards de livraison, des complications de logistique, des ruptures de stock, des augmentations de prix drastiques. Écoute, tu vas rire, j'ai été refusé dans 4 universités pour faire ma maîtrise en administration des affaires, mais je te dirais que là, je crois, avoir un doctorat en administration des affaires avec ce 4 mois de ce qui s'est passé. Et donc, c'est une folle aventure qui existe encore, qu'on continue. Cependant, on a fait une entente avec une entreprise qui s'appelle Clean, une entrepreneure exceptionnelle, Marie-Pierre Bérubé, qui est déjà dans le sanitaire et qui, elle, c'est son domaine d'expertise, c'est son champ d'expertise. Et ça me permet de recommencer à ressouffler, me reconcentrer sur mes spiritueux, et surtout bâtir notre plan stratégique de 3 ans qu'on vient tout juste de débuter.
Donc, en gros, si je comprends bien, elle va prendre le lead de cette organisation-là. Vous avez un deal de partenariat.
Oui, exactement. Ouais. Un peu comme si on avait fusionné cette division.
Ben, c'était une bonne chose d'avoir cette approche-là. Ça t'ouvre un autre segment de marché. Tu as aidé le Québec. On pourrait dire que c'est un win-win. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'Hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, à commercial, J, le chiffre 7, média au singulier, .com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Je reviens à ton livre. Il y a un chapitre qui est assez fascinant avec François Charron qui explique un petit peu tous les gadgets un petit peu qu'on peut avoir chez nous. Il dit que le nouveau oubliez Hollywood maintenant, le nouveau studio est chez soi. On enregistre le podcast aujourd'hui. Bon, moi je suis au bureau, mais beaucoup des podcasts, des fois, je les fais chez moi. On peut s'organiser maintenant d'une manière très, très intéressante. Comment tu vois ça un petit peu dans le futur, toi qui fais beaucoup d'entrevues, beaucoup d'interviews, on te voit à plusieurs endroits. Est-ce que tu as eu à bâtir peut-être un micro-studio chez toi pour t'assurer que tous ces enregistrements-là...
Oui, effectivement, puis plus qu'un micro-studio, moi je fais même Radio-Canada tous les mercredis d'ici, dans mes bureaux. Donc, on est en train de rajouter, là, le monde le voit pas, mais ça va devenir un studio, mes bureaux, puis d'ailleurs, on va certainement déménager le bureau, là, un étage plus haut. Et les plans font en sorte que c'est carrément un studio de tournage parce que, un, je peux passer mes messages avec les équipes, mais deux, l'international, il va avoir moins de transport pour un bon 3-4 ans j'espère pas, mais tu sais, je regarde ça venir là avant qu'on reparte la machine comme avant la COVID. Donc, je vais profiter de la technologie qui existe pour pouvoir être encore plus présent à l'international, mais à 10 minutes de chez moi.
Ben c'est la beauté de ça maintenant. Dès que tu le disais un petit peu plus tôt, une bonne connexion internet, un bon micro, puis on est bien équipé, on peut faire un très très bon bout de chemin à ce qui a trait au niveau de l'enregistrement. Nicolas, tu termines ton livre en disant que ce travail-là, là, que cette on le redit là à l'audience qui nous écoute aujourd'hui, le livre « Réussir son télétravail » est maintenant disponible. Un livre que Nicolas Duvernois a écrit avec plusieurs partenaires en quelques semaines seulement. Tu termines ton bouquin en disant que ça a été un peu un baume sur tes lèvres de faire ça, sachant que ta première expérience en télétravail n'avait pas tellement bien fonctionné. La question que je te pose aujourd'hui, avec tous les apprentissages que tu as fait dans les 6 derniers mois, C'est quoi ta vision du futur pour le télétravail? Crois-tu que quand, bon, on l'espère, le vaccin va être fonctionnel et que tranquillement, on va retourner à la normale, tu vas garder un volet hybride entre le télétravail et le travail du bureau? C'est quoi ta vision par rapport à ça?
Définitivement hybride, un genre de une semaine, 3 jours bureau, l'autre semaine, 2 jours bureau, peut-être, dans ces environs-là. Moi, je suis une bébête de bureau, j'aime mes bureaux. Nos bureaux sont super beaux en plus, ça fait que j'aime ça venir travailler au bureau, mais après, il y a des réalités différentes pour tout un chacun. Cependant, ce que je crois que le télétravail va amener pour le marché du travail, puis j'espère sincèrement, sérieusement, c'est une plus saine relation avec le travail. Le travail n'est pas supposé te rendre malade, fait, ou te pousser à l'épuisement. Le travail est supposé être exigeant, mais nourrissant, motivant, inspirant. Il doit faire grandir, tu dois t'épanouir au travail. Et je crois qu'une personne comme ça est une personne qui est la plus productive qui soit, parce que c'est une personne qui est productive d'un côté de travail, mais c'est une personne qui est productive dans la société, dans le sens où c'est une personne heureuse, c'est une personne qui prend soin d'elle, c'est une personne qui a une belle relation avec ses amis, avec ses enfants, avec... Je crois beaucoup à ça. Puis, tu sais quoi, il y a 5-6 ans, quelqu'un me disait ça, c'était très ésotérique. Et on regarde aujourd'hui cette pandémie, qui a été une catastrophe humaine, mais qui va être une catastrophe, je crois, encore plus grande psychologique sur le long terme. Et le monde va rester marqué de ça. Surtout les personnes, quand je pense à toutes les personnes dans les milieux hospitaliers, les CHSLD, en première ligne, hey, c'est pas évident ce qu'ils font là, depuis 9 mois non-stop. Là, t'sais? Et donc, je crois qu'on va développer une relation plus saine avec le... J'espère. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai jamais exigé des trucs de fou à mon équipe. Je me l'exigeais, je me l'imposais à moi-même. Je veux plus le faire. Je veux le faire différemment. Et tu vois, il y a un rappeur français que j'aime beaucoup, Lafouine, qui dit « C'est mieux vaut travailler intelligemment que travailler fort. » Dans un podcast sur le monde des affaires nommé Lafouine, c'est quand même quelque chose. Bref, ça pour dire que c'est une phrase qui est super intéressante. Et puis, j'y crois énormément.
Effectivement, je pense que tu l'as bien dit. Je termine les petites questions personnelles, Nicolas. J'aime toujours ça poser ça à mes invités. Lecture, on a présenté un livre aujourd'hui de réussir son télétravail. J'imagine que si t'écris un livre, tu dois aimer lire des livres. Qu'est-ce qui a marqué ton imaginaire peut-être dans les 12 derniers mois? S'il y a un livre à faire que tu pourrais recommander à notre audience?
Alors, cette année, sérieusement, j'ai lu quelques brides dans quelques livres, mais j'ai découvert les balados. Je suis un baladoinomane, OK? Il n'y a pas une seconde où j'écoute pas un balado. Donc, ça n'a pas remplacé ma lecture, parce que je sais que pendant le temps des fêtes, je vais lire, mais je suis vraiment balado. Mais cependant, j'en ai acheté 300 livres. Moi, je suis très gros consommateur de livres, de par le fait que j'ai beaucoup d'intérêt. Mais j'ai découvert, OK, allons ailleurs. Moi, il y a des livres que j'adore d'une illustratrice qui s'appelle Élise Gravel. Et j'ai 3 enfants. Et je te dirais que c'est pas mal ça que j'ai lu dans mon année. C'est toute Élise Gravel. Et cependant, pour le monde des affaires, il y a quand même au début de l'année, j'ai relu un livre. Des fois, je relis des livres. C'était 11 Rings, donc 11 bagues, je suppose, de Phil Jackson, qui est un entraîneur légendaire de basketball, qui est aussi un moine taoïste, bouddhiste, bref, qui arrive avec une approche tellement intéressante sur le leadership. Un entrepreneur dans la NBA, tu gères des pas des PME, des méga entreprises, toutes dans la même équipe, tu sais, qui font 60 millions de revenus chacun. Et comment faire en sorte de faire une équipe avec tout ce monde-là, avec du monde qui ont extrêmement confiance en eux, tous des taureaux, tous des si. Puis le gars, il a gagné 11 championnats. Il a été coach de Michael Jordan, de Shaq, de Kobe, de Scottie Pippen, des plus grands. Comment faire en sorte que aujourd'hui il se réveille et les plus grands disent de lui que ça a été un personnage qui a transformé leur carrière? Moi, ça m'intrigue parce que quelqu'un qui peut inspirer, motiver, pousser la réflexion très loin chez un individu, on a tous à apprendre de lui. Ce livre-là, beaucoup, puis j'ai relu aussi un livre de Joe Bastianich, qui est un restaurateur italo-américain. C'est un des propriétaires de Italie à New York, et il est chef aussi dans plusieurs émissions de télé, chef de les émissions genre de télé-réalité de cuisine, là. Il est comme juge, et il a un livre qui s'appelle « Restaurant Man », l'homme de la restauration, j'imagine, encore une fois. Mais en anglais, c'est mieux de le lire. Là je suis pour langue française, mais c'est parce que c'est comme lui qui l'écrit. Là. Et ça t'amène dans les coulisses de la restauration. C'est passionnant, passionnant, passionnant.
Puis, je reviens au livre « Eleven Ring » de Phil Jackson. C'est important de le mentionner. Phil Jackson ne faisait pas que coacher des athlètes. Il a coaché les plus grands joueurs de basketball et ces gens-là avaient un respect incroyable de lui. Michael Jordan a dit à la fin de sa carrière qu'il n'allait pas continuer à jouer avec les Bulls si Phil Jackson n'était pas là. Il a tenu sa parole, il a pris sa retraite par la suite. Phil Jackson, là, c'est 11 titres en, je crois, 17 saisons. Là. C'est complètement phénoménal.
Fou. Puis ça, c'est un hippie. Hein? Son histoire est passionnante. C'est un hippie, là, vraiment chambauche, qui a joué dans l'NBA lui-même et qui après, il est apparu un peu, il est apparu un peu de nulle part comme coach et puis il a réécrit c'était quoi être un coach.
Et puis, bon, tu m'as fait une petite passe sur la POC, là, comme on dit dans le mot français. Balado, t'as l'air d'avoir stické à ça cette année. C'est quoi les podcasts qui jouent peut-être dans tes écouteurs ou dans ta voiture quand tu vas au bureau?
Et là, je viens de finir le podcast, comment ça s'appelle, sur la plateforme de Radio-Canada Audio. C'est Stéphane Marteau-Meuf, c'est un ancien policier français. Ça s'appelle French Connection, c'est 3 séries. Il y a 2 séries passionnantes que je viens de finir. Sur le truc de Radio-Canada aussi, ça, il y a une journaliste, ça s'appelle Ma version des faits. Wow. Mais c'est des balados qui me divertissent. Là. En affaires, j'en écoute aussi, mais ça... France Inter, on oublie souvent d'aller voir les balados français. Tu sais, si on veut quelque chose de français, France Inter a une série de 12 ou 13 balados. Fait que ça, j'aime ça. Tu sais, il rentre dans les détails sur les attentats du Bataclan, qui est passionnant. Et Radio-Canada aussi a fait un balado de 8 ou 9 séries sur la crise d'octobre. Ça me donne des frites. Tu sais, moi, j'ai fait sciences politiques, hein, je suis très histoire, là. Écoutez ça, là. Prenez le temps d'écouter ça. Moi, je suis très privilégié. J'habite sur le Mont-Royal. Je vais marcher 3-4 heures des fois, puis j'écoute des... Puis il y a plein de cimetières. En fait, tu sais, je marche dans un cimetière, il y a une histoire dans un cimetière en plus. Et c'est fou. Côté affaires, j'ai beaucoup... Je surveille tout ce qui se fait au Québec, incluant toi. Le problème, c'est qu'il y en a tellement. Il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de tout. Tu peux pas tout écouter. J'aime bien pour être diverti Gary Vee. Hein, je m'ostine avec lui bien souvent sur des sujets dans ma tête. Sinon, il y a The Social Pros qui est, depuis longtemps, ça existe, je suis à 5-6e épisode, qui parle de la stratégie des grandes entreprises ou des bons coups des entreprises sur les réseaux sociaux. Et c'est ça. J'en écoute, là, ça finit plus. Là. J'aime beaucoup le balado. Le balado est définitivement ce qu'Internet était en 1991. Ça va devenir gigantesque.
100%. C'est ce qui est tellement intéressant avec les balados, puis tu viens de le dire, c'est que tu peux aller faire une activité, marcher dehors, faire du sport même, et écouter un contenu du même coup, chose qui est difficilement possible quand tu as un contenu vidéo, un livre, hein, que tu dois être à 100% concentré. C'est excessivement intéressant. Je suis un énorme fan aussi de balados. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai lancé un. C'est souvent ça qui se passe. Des gens qui aiment les balados en lancent un.
Ouais.
Je termine. Dernière question que je te pose. On a parlé beaucoup du livre aujourd'hui. On a parlé de conditionnement physique, de se remettre en forme. J'aime toujours poser ces questions-là aux entrepreneurs que je reçois. Routine. Est-ce qu'une routine que tu suis, que ça soit avant d'aller travailler, pendant que tu travailles, après le travail, avec ta famille le week-end, y a-tu des choses là, que tu suis religieusement?
Oui. 7 jours sur 7, moi, je me lève à 5h45. La semaine, je me lève à 5h45 parce que, je prépare mes enfants. Ma femme vient d'accoucher là, fait que depuis 5 mois. Donc, j'ai pris le rôle de préparateur en chef le matin. Et je veux pas brusquer mes deux petites filles, Victoria et Charlotte. Fait que je veux qu'on part à 7h30. Mais pourquoi je les lève à 5h45? Moi, je les lève avec de la musique. Moi, je suis très mélomane. Là. La musique, je les reparle partout. Je mets de la musique dans leur chambre. J'ouvre une petite lumière. Moi, je vais me préparer. Ils prennent le temps de se réveiller. Tu sais, je suis pas go, 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 là, les filles, go, on mange, go, go, go. Moi, je me dis, on peut pas faire ça des enfants, tu sais. Et un humain non plus, d'ailleurs. Et donc, moi, je prends le temps le matin, tu sais, pour prendre le café, tout ça. Puis, comme ça, à 7h30, je pars. Très dispo. Je les amène une à l'école, une à la garderie. Après, j'arrive ici vers 8h, 8h15. Bon, là, je travaille, là, ça dégénère d'une manière ou d'une autre, hein, comme d'habitude. Et j'arrive vers chez moi, je pars. Des fois, je vais chercher, des fois, non. Dépendant, là, je suis avec ça, avec ma femme, la journée. J'arrive chez moi rarement après, depuis la pandémie, là, rarement après 17h30. Je suis à 10 minutes de chez nous. Là. Pourquoi? Parce que je veux manger avec mes filles, je veux passer du temps avec, lire l'histoire du dodo, puis tout ça. Et le soir, je te dirais que trois, quatre soirs semaine, quand tout le monde est couché, là, tout est fait, là, moi, je balado time, je vais me promener. Moi, je suis un grand amateur de cigares. J'ai découvert ça quand j'avais pas une scène et que je trouvais ça hors de prix. C'est un de mes amis qui avait une passion comme ça sur le cigare, que je trouvais que ça puait avant. Et donc, je fume un cigare, pas toutes les marches, là, mais moi, là, une bonne soirée, là, c'est fumer un cigare, écouter un balado. Il n'y a pas le chat, là, sur la montagne. Ah, oh, j'aime ça, là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, ma routine.
Ça aère l'esprit, hein, les bonnes marches, tout ça. Ouais. Écouter un bon podcast dehors, là.
Ouais, vraiment, vraiment. Fait que c'est ça, ma routine. Écoute, outre le fait que je m'entraîne aussi à des heures spécifiques, trois, quatre fois semaine.
Bon, ben, je suis content d'entendre ça. Donc, on le redit à l'audience qui nous écoute aujourd'hui. On en a parlé tout au long de l'épisode. Réussir son télétravail, le nouveau livre de Nicolas Duvernoy que j'ai eu la chance de lire, que j'ai très apprécié.
Merci.
Nicolas, merci énormément d'avoir partagé ton temps avec notre audience d'Hypercroissance aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 57e épisode de Hypercroissance vous aura donné les astuces nécessaires afin de continuer à avoir du succès dans votre télétravail. Si ce n'est pas fait encore, je vous invite à vous procurer le dernier livre de Nicolas. J'ai moi-même pris le temps de le lire et c'est très intéressant d'avoir les points de vue de plusieurs collaborateurs sur des sujets distincts. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'ajouter directement sur LinkedIn et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.